Les podcasts du Collège de France, biologie.
Cette cinquième leçon, donc, sur l'ontologie des images. J'avais commencé, lors de la dernière leçon, à traiter la figuration totémique, essentiellement en Australie, même exclusivement en Australie, en avançant que cette figuration donnait à voir les propriétés ontologiques du totémisme en utilisant trois stratégies figuratives principales. La première consiste à associer des figurations de prototypes totémiques en train d'accomplir une action instituante, associées avec des figurations de sites, qui sont à la fois des cadres et des résultantes de cette action, et des figurations d'emblèmes associées au groupe totémique issu de ces événements. C'est ce que je propose d'appeler la forme complète. C'est la tradition figurative des Yolngu du nord-est de la terre d'Arnhem que j'avais examinée lors de la dernière leçon. Elle vise en somme à représenter un ordre spatio-temporel et classificatoire en train de s'actualiser dans un événement. À partir de là, deux transformations sont possibles. Soit figurer l'ordre totémique au moyen de l'image de ceux qui l'ont engendré, mais en supprimant ou en omettant le résultat de leurs actions, soit au contraire, ne figurer que le résultat de ces actions en omettant ceux qui en sont la cause. La première formule correspond aux peintures dites en rayon X, des peuples de la partie nord-occidentale de la terre d'Arnhem, notamment les peintures des Kunwinchku, et c'est d'elles que nous allons nous occuper aujourd'hui. Alors, on connaît bien ces peintures en rayon X depuis pas mal de temps, grâce évidemment aux ethnographes, je reviendrai là-dessus, qui ont travaillé dans la terre d'Arnhem au cours des finalement du dernier siècle, mais tout particulièrement grâce aux études de Luke Taylor, qui a en particulier écrit une très belle monographie sur ce thème qui s'appelle « Seeing the Inside ». Et les peintures Kunwinchku contemporaines sur écorce sont une... Alors, on va voir où on est. Donc, la dernière fois, on a traité des Yolngu, donc la partie est de la terre d'Arnhem. Maintenant, on passe vers la partie ouest. Il s'agit des Kunwinchku et des Gagudju aussi, d'ailleurs, qui ont une tradition assez similaire. Et on trouve, je le dirai tout à l'heure, dans cet endroit qui est le Kakadu National Park, des peintures rupestres très anciennes qui relèvent des mêmes schèmes figuratifs. Donc ces peintures Kunwinchku contemporaines sur écorce sont une évolution de figurations plus anciennes sur les parois de grottes et d'abris sous roches et aussi sur les parois intérieures d'abris en écorce, figurations qui avaient attiré l'attention des premiers visiteurs dans la région à la fin du 19e siècle et qui ont fini, à partir des années 50, par trouver leur chemin vers le marché de l'art international, c'est-à-dire beaucoup plus tôt en réalité que les peintures dont nous allons parler la semaine prochaine, du désert central, qui ont commencé à être diffusées à l'extérieur de l'Australie que, disons, à la fin des années 70 et même dans le courant des années 80. Les explorateurs qui visitent la terre d'Arnhem occidentale, et puis surtout à la fin du XIXe siècle, et puis surtout en 1912, le grand ethnographe Baldwin Spencer, témoignent tous d'une très vive admiration pour les peintures rupestres. La tradition des peintures rupestres dans cette région, et notamment celle que l'on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le parc national Kakadu, remonte à au moins 18 000 ans, mais il y a des ruptures stylistiques et la continuité stylistique actuelle avec la tradition donc contemporaine des Kunwichku, remonte seulement, si l'on peut dire, à 3000 ans. Mais sur 3000 ans, c'est quand même une durée très très longue pour une continuité stylistique. Entre 1985 et 1987, une enquête systématique dans la région du parc national Kakadu a révélé près de 3000 peintures dans 231 abris sous roche, datant grosso modo de 1000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, et caractérisées par les mêmes conventions stylistiques. Ces peintures sont toutes caractérisées par la technique dite, qu'on a appelée ensuite dans la littérature ethnographique sur l'Australie, des rayons X, c'est-à-dire par le dévoilement des parties internes des figures représentées. Elles ont à peu près la même taille que l'objet représenté, ces peintures, et elles utilisent comme couleur pour l'essentiel du rouge, du blanc et du jaune. Voici quelques exemplaires de peintures rupestres, hein, dans des grottes. Oh, ça, c'est au sud-est du parc national Kakadu, le Death Adder Gorge. Autre modèle. Donc, vous voyez de façon très caractéristique la représentation des éléments internes de l'animal. Voilà. Jusque dans les années 1950, les Kunwichku habitaient dans des abris sous roche. C'est la raison pour laquelle on trouve ces peintures dans des abris sous roche. Et lorsqu'il n'y avait pas d'abris sous roche disponible à proximité, dans des abris en écorce d'eucalyptus. De sorte que la peinture des abris d'écorce et la peinture rupestre relèvent d'un même mouvement. Il s'agit de figurer sur les lieux d'habitat des images qui sont à la fois décoratives et qui permettent aussi d'apprendre des choses aux enfants, comme le disent les Kunwichku. Voilà un abri d'écorce dans les années 1920. Vous voyez qu'ils sont constitués de grands rectangles d'écorce d'eucalyptus, et c'est à l'intérieur de ces abris que l'on peignait ces grands rectangles d'eucalyptus avec les mêmes motifs que ce que l'on trouvait dans les grottes. Les premiers Européens, Spencer au premier chef, ont collecté des peintures d'abris sur écorce et ont commandé ensuite des peintures directement sur écorce au Kunwichku dans un format analogue à celui des pièces d'écorce qui constituaient les abris. La collection que Spencer a accumulée au début du XXe siècle a eu un impact considérable sur le développement de la peinture Kunwichku sur écorce et sur la systématisation du style dit rayon X. Et à une époque où la culture aborigène était encore systématiquement dénigrée, Spencer a été le premier à reconnaître dans ses peintures une iconographie très originale et à la diffuser, notamment à Melbourne, parmi les peintres impressionnistes australiens dont il était l'ami. Donc il y a eu un mouvement primitiviste, si on peut dire, en Australie, un peu analogue à ce qui s'est passé en Europe à l'époque où les peintres découvraient l'art, en tout cas les images, notamment d'Afrique et du sud des États-Unis. Cette action de diffusion menée par Spencer et naturellement les publications qui ont eu très tôt un très grand succès ont contribué à établir la peinture sur écorce comme une catégorie reconnue d'art primitif, témoignant des premiers balbutiements de l'art, puisque Spencer, qui était un évolutionniste convaincu, voyait les aborigènes australiens comme représentatifs des échelons les plus primitifs dans l'évolution de l'humanité. Ça, c'est le genre d'écorce que Spencer aurait pu recueillir. Là, elle a été collectée un peu plus tard par Mountford, mais c'est le format et le type de peinture que l'on peignait sur ces plaques d'écorce à l'intérieur des abris en écorce d'eucalyptus. Vous voyez que il s'agit d'une silhouette en peinture blanche avec les articulations principales et les organes essentiels figurés en rouge. Généralement, on figure, je reviendrai là-dessus, le nerf optique, le tube digestif, le cœur, les poumons, le foie et l'estomac. Et les zones hachurées, qui sont toutes dans la partie postérieure, indiquent des portions qui sont plus particulièrement appréciées parce qu'elles sont soit d'une chair plus succulente, soit qu'elles abondent en graisse. Alors, les Kunwichku insistent sur le fait que la qualité d'une peinture tient à la ressemblance qu'elle présente avec l'objet figuré. Donc, il y a une dimension iconique très forte et très valorisée. Et lors de leur apprentissage, les peintres Kunwichku deviennent peu à peu capables de maîtriser un très grand nombre de schèmes morphologiques correspondant à une grande variété d'espèces animales. Tant que ce n'est pas le cas, ces jeunes peintres, les néophytes, s'exposent à des remarques ironiques ou à des critiques qui provoquent chez eux une honte cuisante. Donc il y a une incitation à se perfectionner qui est très forte parce qu'ils sont très sensibles à ces critiques. Par contraste, donc, avec les peintures Yongu que nous avons vues lors de la leçon précédente, qui sont très compartimentées, et dont toute la surface est occupée par des motifs, la peinture traditionnelle Kunwichku est constituée de un ou deux sujets. Alors maintenant, il y en a beaucoup plus, on en verra, mais nous entrons dans une ère de la virtuosité, si l'on peut dire, mais traditionnellement, il n'y avait qu'un ou deux sujets, qui se détachent sur un fond d'ocre rouge uniforme. Et la première étape de toute peinture consiste donc à préparer ce fond sur ce rectangle d'écorce. C'est de l'ocre stabilisé avec de l'eau et avec maintenant avec un peu de colle à bois diluée. Et sur ce fond, là où les silhouettes sont peintes avec une couleur d'un blanc éclatant qui est obtenu par un carbonate de magnésium et de calcium qui est accessible dans certains sites localement. Une dimension esthétique fondamentale de la peinture, c'est l'équilibre de la figure blanche, pour les Kunwichku en tout cas, mais on en verra aussi quelques exemples tout à l'heure, je crois, pour tout le monde, l'équilibre de la figure blanche se détachant sur le fond du rectangle rouge. Et il est possible, à ce stade, lorsque l'on figure la silhouette, sans donc avoir complété l'intérieur, de corriger un tracé défectueux en reprenant en rouge la bordure de la figure et en repassant ensuite sur celle-ci une couche de blanc. Et c'est d'ailleurs souvent les peintres les plus expérimentés qui reprennent ainsi les tracés des plus jeunes ou qu'ils font ces tracés entièrement pour eux. Chaque espèce animale a un profil, un schème morphologique canonique qui doit être reproduit avec exactitude, de façon à pouvoir identifier sans équivoque cette espèce, puisque l'intérieur de la silhouette figure l'intérieur de l'animal et ne peut donc servir à le reconnaître par des qualités de surface. Vous avez ici quelques exemples de silhouettes correctes pour représenter l'émeu et l'outarde à gauche, pour le brolga, qui est une grue rouge, et le jabiru à droite, et en bas, la correction qui a été faite par un peintre expert, par un ancien, d'une grue, d'un brolga, qui était en fait mal figuré, qui ressemblait plutôt à un émeu qu'à un brolga. reproduire, par exemple, avec exactitude, la silhouette du kangourou est une compétence que les jeunes artistes mettent longtemps à acquérir. Il existe 7 espèces distinctes de kangourous dans la région, chacune avec des caractéristiques morphologiques évidemment qui lui sont propres, quelquefois très ténues, c'est une queue qui est plus ou moins fournie ou touffue, des oreilles qui sont plus ou moins pointues ou redressées, etc. Et chacun de ces détails doit être reproduit avec exactitude de façon à permettre l'identification, les différences de taille entre les espèces étant figurées par des modifications subtiles de la forme du corps. Et les peintres expérimentés, qui sont parvenus à maîtriser l'iconographie standard, c'est-à-dire la figuration de la silhouette selon un profil correct, et de l'intérieur, font porter leur effort, plus particulièrement, sur la fluidité et sur le dynamisme des attitudes. On en a ici un bon exemple, c'est le serpent arc-en-ciel, c'est-à-dire c'est la forme qui est extérieure, là, c'est ça, hein, qui entoure le kangourou. Donc là, le peintre a enroulé le serpent arc-en-ciel, une galiode autour du kangourou, en figurant des couleurs vives, en bande épaisse, pour suggérer l'arc-en-ciel. Autrement dit, l'iconicité est, dans le cas présent, tout à fait fondamentale. À tout le moins, la conformité à un schème figuratif reconnu par tous comme étant la figure la plus ressemblante au prototype. Une fois figurée la silhouette reconnaissable du prototype, il faut la remplir. Et c'est là que les choses se compliquent. Mais avant d'aborder cette question, il faut dire quelques mots sur l'organisation sociale Kunwichku, qui présente des similitudes, comme un peu partout en Australie, avec bien évidemment celle que l'on a vue la dernière fois, celle des Yolngu, mais qui en diffère sur plusieurs points. Les Kunwichku est un système de parenté de type Aranda, c'est-à-dire un système à 8 sous-sections structuré autour d'une division centrale entre deux moitiés patrilinéaires qui portent les mêmes noms que les moitiés chez les Yolngu, c'est-à-dire dans la partie orientale de la terre d'Arnhem, ces deux noms étant Duwa et Yirijijda. Et ils ont aussi deux moitiés matrilinéaires qui sont appelées Nangaratku et Namartku. L'accès aux ressources matérielles, spirituelles, disons, ou symboliques, ontologiques, d'un territoire se fait à travers l'affiliation patrilinéaire à des clans nommés, qui sont des personnes morales, possédant des droits d'usufruit, de contrôle sur des territoires et surtout sur des sites nommés associés à des êtres du rêve considérés comme ayant une association directe avec le clan. Et selon la logique aborigène classique, les sites et les êtres du rêve qui réalisèrent des actions dans ces sites, l'un et l'autre appelés Jang, sont co-constitutifs du paysage et donc chaque site constitue un entrepôt d'esprit, un dépôt d'esprit, fournissant, le terme classique, on l'a déjà vu, c'est esprit-enfant hein, dans la littérature ethnographique, qui constitue autant de semences d'individuation des membres humains et non-humains du clan, donc du groupe totémique, attaché à ce site. Et les esprits-enfants sont la descendance d'un être du rêve particulier, mais ils sont aussi liés au serpent arc-en-ciel, donc ce personnage, cet être du rêve particulier qu'on appelle une galiode, qui vit dans les trous d'eau, qui garde les trous d'eau. Et en somme, il s'agit d'une sorte d'accoucheur qui en avalant jadis les êtres du rêve, les uns après les autres, et en des endroits tout à fait spécifiques, a donné naissance à cet endroit et à ses particularités. Le lien génétique entre un individu et l'un de ces sites totémiques dispersés sur les territoires des clans est célébré dans des cérémonies. Et l'ensemble du patrimoine issu d'un être du rêve est confié aux membres d'un clan associés au site de cette œuvre, de cet être du rêve, et ce patrimoine qu'on appelle Anku Ichku business, c'est en fait une déformation du mot anglais business, se compose de chants, de motifs de décoration corporelle et de divers types d'objets sacrés. Tous les sites sur le territoire d'un clan n'ont pas été engendrés par le même être du rêve, de sorte que les membres d'un clan peuvent s'identifier à différents êtres du rêve célébrés dans différents sites au cours de cérémonies distinctes. Il arrive d'ailleurs souvent qu'un être du rêve se soit manifesté dans des territoires appartenant à d'autres clans, de sorte que plusieurs clans peuvent se trouver conjointement responsables des cérémonies pour un même être du rêve. Autrement dit, l'organisation clanique des territoires définit pour chacun les sites et le patrimoine de chants, de danses et de motifs qu'il ou elle reçoit en filiation patrilinéaire, mais cela n'empêche pas une certaine flexibilité dans l'exercice de ses droits. En particulier, outre les droits d'accès reçus en ligne paternelle, les Kumichku ont aussi certains droits sur les territoires et sur les sites sacrés de leur mère. Ce ne sont pas des droits de propriété, mais des droits de gestion, en quelque sorte, sur le patrimoine de leur clan maternel. Et les individus qui exercent ce droit sont appelés Djungay. On dit des Djungay qu'ils travaillent pour leur clan maternel. Pendant les cérémonies, par exemple, ça c'est un point très important qui les différencie des Yongu, c'est le Djungay qui prépare le terrain cérémoniel pour les membres de son clan maternel, qui n'est donc pas son clan à lui. C'est le Djungay qui fabrique les objets cérémoniels, c'est lui qui peint les motifs cérémoniels sur le corps de leur propriétaire, qui n'ont pas le droit de le faire eux-mêmes. Et il arrive parfois que les membres d'un clan ne peuvent pas visiter un site clanique tant il est puissant, et ce sont les Djungay qui doivent donc s'en occuper. Ceci signifie que les Djungay, qui sont donc les gestionnaires pour un clan maternel, ont le droit de visiter les sites les plus importants de ce clan, ils ont le droit d'apprendre les histoires qui concernent ces sites, et, last but not least, ils ont le droit de produire et de manipuler les objets sacrés et les motifs pictographiques de ce clan, même s'ils n'ont pas, vis-à-vis de ce clan, un lien d'identification ontologique direct. Ils peuvent donc peindre les motifs du clan maternel sans demander aux membres de ce clan la permission de le faire. Ces motifs, d'ailleurs, sont appelés « mères », le terme désignant bien le côté par lequel la filiation s'opère. Il arrive même qu'un homme peignant les motifs de son propre clan soit soumis à une amende puisqu'il a empiété ainsi sur les droits du Djungay, du gestionnaire, qui en général est le fils d'ailleurs de sa sœur, sur le droit du Djungay d'être le producteur exclusif de motifs iconographiques dans un contexte cérémoniel. Donc on voit là un contraste très marqué avec les Yongu, où on s'en souviendra, la possession et l'usage des motifs iconographiques d'un clan demeurent toujours à l'intérieur du clan. Et cette flexibilité permet notamment au Kumichku l'accès individuel, un beaucoup plus grand nombre de motifs iconographiques, et ce, d'autant plus que la peinture sur écorce, contrairement au cas Yongu, où elle est entièrement déterminée par la filiation clanique, est ici beaucoup plus ouverte dans ses genres et dans ses contenus. Alors, Luke Taylor distingue en fait deux styles de rayons X chez les Kumwishku, l'un qui est plutôt réaliste et associé à la découpe du gibier, l'autre qui est plus stylisé et qui est associé à des fonctions rituelles. En réalité, c'est un peu plus compliqué que cela et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, voilà une image classique qui représente donc deux brolgas, c'est-à-dire deux grues rouges avec des mimi, où on voit bien donc le principe du rayon X avec figuration de certains organes. Hein, on voit le tube digestif, on voit l'estomac, ce qui semble être une colonne vertébrale, mais elle ne va pas tout à fait là où elle devrait aller. Et puis, des organes, ici, le cœur, les poumons, on viendra plus tout à l'heure sur la figuration de ces organes. Ici, on a donc deux chasseurs et deux grues. Les chasseurs et les grues sont peints selon des conventions figuratives tout à fait distinctes. Tandis que les chasseurs, les mimi, sont tout petits, mais en plein mouvement. Vous voyez, la manière dont les membres sont disposés indique qu'ils sont très agités. Les grues sont proportionnellement beaucoup plus grands, mais inertes, et dépeintes de façon à révéler leur anatomie. Les chasseurs, ce sont donc des mimi. Alors, les mimi, c'est une race d'esprits qui habite les crevasses des falaises et qui mène une vie réputée analogue à celle des humains. Ils chassent, ils dansent, ils font la cuisine, ils font l'amour, ils ont des enfants, ils se disputent, ils font la guerre, ils ont exactement le même genre de vie que les humains. Et des récits rapportent que c'est grâce à eux que les humains ont appris à découper la viande et à partager la viande comme il convient. Les mimi, qui vivent toujours, disent les Kumwishku, enfin pas simplement les Kumwishku, parce que c'est une race d'esprit qui est commune à une grande partie de la terre d'Arnhem, les mimi enseignèrent aussi aux humains à peindre. Et les Kumwishku disent que les peintures rupestres très anciennes que l'on a vues tout à l'heure, dont on a vu en tout cas quelques exemplaires, sont le résultat de l'activité des mimi. Cette image et les très nombreuses autres du même type, il y en a une, alors là c'est le même principe, mais alors qui est caractérisé par une sorte de virtuosité folle, puisqu'il y a une saturation non pas de la toile, mais de l'écorce, et des wallabies, des serpents, des goannas et toutes sortes d'autres animaux. Il y a beaucoup de mimi avec leurs armes, il y a des propulseurs, des lances, etc. Ces images, les images de ce type, donc, figurent une sorte de gabarit de découpe du gibier, gabarit tel qu'il fut institué par les mimi comme un modèle pour la distribution de la viande entre parents. Alors, ce genre de peinture désigne donc ce que les Kumwishku, on va reprendre plutôt celui-là, peut-être que l'exemple le plus clair, ça serait celui-là en réalité, ce que les Kumwishku appellent mait, c'est-à-dire la viande. La capture d'un gros gibier, kangourou en particulier, suscite toujours beaucoup d'excitation et les Kumwishku s'efforcent d'être équitables dans les distributions de viande en respectant les règles strictes de distribution parmi les parents du chasseur. Et ce thème de la distribution du gibier, c'est aussi un fil conducteur dans certains contextes mythologiques. Et comme on le verra plus loin, la création d'objets sacrés peut être considérée comme une découpe aussi des êtres du rêve en morceaux de corps, et la responsabilité des membres du clan vis-à-vis de l'entretien de ces objets sacrés peut être métaphoriquement assimilée aux normes pour le partage du gibier entre parents. Alors, la figuration des organes dans les images de ce type, les images viande, si vous voulez, est relativement standardisée, et ce sont toujours les mêmes organes qui sont représentés. L'image a disparu. Tant pis. Ce n'est pas une grande importance. C'est-à-dire, c'est le cœur, c'est les poumons, c'est le tube digestif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi le nerf optique. Et ces figurations de découpes de viande ne sont pas très nombreuses. Elles n'ont pas de signification particulière, hormis peut-être la réitération de la nécessité du partage du gibier, le rappel des conditions dans lesquelles ce partage a été enseigné par les mimis et la fonction décorative que ces peintures avaient jadis dans les habitats. Donc les Kumishku disent de façon très claire que les peintures de ces animaux, comme celui-là par exemple, sont des peintures d'animaux ordinaires, ce ne sont pas des êtres du rêve. Mais lorsque les figures de ce type comportent en sus des organes des hachures, des rayures fines comme celles de cette image, comme c'est le cas donc, dans cette peinture de Brolga, alors ce ne sont plus de banales figurations de viande, ce sont des djangs, c'est-à-dire ce sont des êtres du rêve dans leur avatar animal. Et les images comportant des hachures, des rayures, sont généralement, ces rayures sont contrastées en blanc, en jaune et en rouge. Et on les appelle RARK, R-A-2-R-K. Et ces hachures, donc, représentent les motifs qui ont été légués par les êtres du rêve. Et elles sont assez souvent figurées en combinaison avec des pointillés, des lignes de points qui opèrent des divisions intérieures. Et cela signifie que c'est la figuration d'un être du rêve doté de pouvoir. Ces motifs RARK dépeints sur les figurations des êtres du rêve sont analogues aux motifs des peintures corporelles dans les principales cérémonies, notamment dans les cérémonies dites mardaïnes, qui sont les principales cérémonies des Kunwishku. Alors là, vous voyez une peinture dans laquelle, par contraste avec la précédente, les organes intérieurs ont disparu et on n'a plus que les motifs en hachures, qui signifie que véritablement, on est face ici à un être du rêve. On dit que les êtres du rêve portaient ces motifs sur leur corps au temps de la Genèse et qu'ils ont donné ces motifs aux humains afin qu'ils accomplissent correctement les cérémonies. En ce sens, ces motifs possèdent une agence, une capacité d'action intrinsèque. Ils sont des métonymies, en quelque sorte, des êtres du rêve. La production de ces motifs dans un contexte cérémoniel transfère un peu de la puissance des êtres du rêve à ceux qui les portent et à ceux qui regardent ces motifs. Et la cérémonie elle-même est un moyen de canaliser cette puissance au profit de la fertilité des humains et des non-humains. Et les participants à ces cérémonies disent qu'elles leur permettent de rester en bonne santé, qu'elles contribuent à faire circuler la sève dans les plantes et qu'elles contribuent à ce que les animaux engraissent. Ils disent notamment que les peintures corporelles assurent l'abondance du gibier, à tout le moins pour les animaux associés avec des êtres du rêve particuliers. Tiens. Il y a quelques images qui ont disparu. Peu importe. J'avais quelques images de peinture d'hommes portant, donc lors de cérémonies mardaïnes, des motifs de ce type et des peintures de ces motifs sur des plaques d'écorce, mais dans lesquelles on ne figurait que le motif et pas du tout un animal, la silhouette d'un animal. Donc les motifs, ces motifs des êtres du rêve, les motifs rarques dépeints sur le corps des danseurs de la cérémonie mardaïne, figurent aussi le paysage tel qu'il a été créé par l'être du rêve à l'origine du clan. Il révèle aussi les organes internes de l'être du rêve et, par extension, les organes internes des danseurs qui incarnent l'être du rêve. Donc les peintures corporelles font partie du registre général des peintures d'animaux en rayon X, et on peut envisager cela comme une série de transformations d'un prototype de l'être du rêve. La figuration des seuls motifs, sans silhouette, actualise l'être du rêve sous une forme simplifiée, ou bien l'actualise aussi dans les peintures corporelles, ou bien dans des peintures sur écorce dans lesquelles ces motifs recouvrent la silhouette de l'animal, de l'être du rêve. Et la figuration, cette figuration des motifs à l'intérieur de la silhouette de l'animal, hypostasiant cet être du rêve, l'actualise de façon plus complète, c'est-à-dire en jouant sur toute la gamme de l'iconicité. Revenons maintenant aux images, à ces deux grues rouges. On a vu donc que ces oiseaux ne sont pas que de la viande, qu'ils sont aussi des êtres du rêve. Le fait qu'ils soient inertes, alors que les mimis s'agitent à leur périphérie, ne signale pas seulement qu'ils sont morts, mais aussi qu'ils sont éternels dans leur structure et dans ses subdivisions internes, et que les relations que ces structures entretiennent entre elles sont aussi dotées de permanence. Cette présence structurale, révélant un ordre immuable, contraste avec l'activité un peu brouillonne des esprits mimis qui, tout comme les humains, s'inscrit dans une organisation du cosmos qui leur préexiste et sur laquelle ils ne peuvent pas exercer d'influence. Donc cette image, ce genre d'image, révèle deux caractéristiques fondamentales que l'on retrouve dans toutes les peintures Kumichku. D'abord, non seulement les êtres du rêve, dans leur apparence animale, ne sont jamais figurés en train d'accomplir une action, mais ils ne sont jamais figurés non plus en interaction les uns avec les autres. Ce qui irait à l'encontre de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des sortes de chartes hors du temps de l'organisation totémique. Par contraste, les mimi sont souvent dépeints ensemble, engagés dans toutes sortes d'activités, à la manière des humains dont ils sont une sorte de métaphore iconique. Deuxième trait caractéristique, c'est que l'animal est spécifié par une silhouette en profil qui exclut tout décor, tout environnement, toute figuration d'un cadre dans lequel il mènerait une activité quelconque. L'absence de fond indique qu'il ne s'agit donc pas d'un être particulier situé dans le monde et y menant des actions, mais qu'il s'agit de certaines propriétés du monde, d'une certaine façon, qui sont enveloppées dans un être particulier. Au-delà de cet être, au-delà de l'être du rêve, il n'y a rien d'autre, si ce n'est peut-être ailleurs d'autres êtres semblables, contenant d'autres propriétés du monde, mais qui ne sont jamais représentées de façon contiguë en train d'interagir. Quant aux mimi, ils ne font pas vraiment partie de la scène, ils sont d'ailleurs absents de pas mal de peintures des êtres du rêve. Les peintures des êtres du rêve classiques, on y a introduit des quantités de mimi, comme c'est le cas dans cela, probablement en partie par goût même de la virtuosité, et puis aussi parce que c'est devenu un schème narratif, en quelque sorte, auquel les amateurs de peinture sur écorce s'attendent. Donc, les mimi, en réalité, peuvent être considérés comme une sorte de projection de l'identité du peintre. C'est le peintre qui se représente, c'est un autoportrait du peintre qui se représente en train de figurer l'être du rêve. C'est une manière de signature qui joue sur l'identité fonctionnelle, mais non ontologique, entre les esprits inventeurs de la figuration et des règles du partage de la viande, et puis les humains qui les imitent. Un autre type de peinture rayon X, réalisée par les Kungwishku, rend particulièrement manifeste l'identité ontologique entre des humains et l'être du rêve à l'origine de leur groupe totémique. Et il s'agit de peintures sur écorce aussi, qui figurent des squelettes. Les squelettes sans découpe ni organes d'un être du rêve et d'un humain, et qui rendent ainsi visible le caractère immortel des propriétés qu'ils ont en commun, puisque l'essence éternelle des prototypes est contenue dans leurs os. Alors là, j'espère qu'on a... J'ai l'image. Non, décidément. Il y en a beaucoup qui ont disparu comme ça. C'est les mystères de... Je l'avais présenté, je crois, dans une leçon précédente où l'on voyait un kangourou et un humain figurés avec leur enveloppe, d'une part, et le squelette figuré avec beaucoup de réalisme à côté l'un à l'autre. Et une caractéristique de la peinture, c'est que le kangourou, qui était le kangourou antilopin, était représenté non pas avec les jambes, enfin les pattes arrière repliées, comme sont les kangourous, mais déployées, de sorte que dans le déploiement du squelette, on avait un parallélisme entre l'humain et le kangourou. Ces dessins, qui assez souvent représentent la même chose, c'est-à-dire un être du rêve appelé Kandakij, à savoir le kangourou antilope, évoque une cérémonie de seconde funéraille. Et au cours de cette cérémonie, les Kunwishku jouent une sorte de scénette qui retrace un épisode du récit étiologique de Kandakich, dans lequel la mère de cet être du rêve, après que celui-ci ait été tué par un esprit mimi, va réunir ses os et chanter afin que l'essence de son fils se réincorpore. Et c'est un épisode qui justifie la coutume actuelle de placer les os des défunts dans un tronc évidé autour duquel on chante et on danse de façon à ce que l'âme de clan, c'est-à-dire la semence d'individuation totémique du défunt, soit libérée des os et puisse être guidée vers le réservoir, vers le dépôt d'âme-enfant du clan, où elle pourra se réincorporer dans un nouvel humain. Bref, on a ici un modèle standard, si vous voulez, de australien de perpétuation totémique. L'être du rêve kangourou a laissé une partie de son squelette contenant le principe d'individuation des membres du clan dans un site qui sert de dépôt aux âmes-enfants du clan, et la cérémonie de seconde funéraille sert à renvoyer l'âme du défunt vers le dépôt. Et la peinture, que malheureusement je ne peux pas vous montrer, rend visible cette communauté de destin de l'être du rêve et de l'humain dont il est issu, en mettant l'accent sur l'identité de la structure interne, c'est-à-dire sur l'identité du squelette. Donc, par-delà la morphologie externe dissemblable et qui est figurée par la silhouette, la structure des squelettes de l'humain et du kangourou sont presque identiques et soulignent leur profonde identité ontologique, cette similitude étant, dans le cas présent, c'est-à-dire dans le cas de cette image, renforcée par l'artifice, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui consiste à figurer le kangourou antilope comme s'il était debout et non comme à l'accoutumée, avec les pattes arrière repliées. Par ailleurs, la figuration du squelette, c'est-à-dire l'absence d'organes, de figuration d'organes et de chair, attire l'attention sur les os, qui sont le siège de l'essence prototypique que l'être du rêve et l'humain ont en commun. De sorte que, comme l'écrit Luke Taylor, je le cite, « la juxtaposition des deux figures de squelette articule la métaphore de similitude entre l'essence spirituelle de l'humain et celle de l'être ancestral. Cette association des identités, ajoute-t-il, est au cœur des croyances totémiques des Kunwishku. » Dernier trait qu'il convient, figuratif, qu'il convient de mettre en avant à propos de l'iconographie Kunwishku. Ceux-ci voient leurs objets rituels et leurs sites totémiques comme des morceaux transformés du corps des êtres du rêve, de sorte que l'usage de ces objets et l'entretien de ces sites permettent aux humains de maintenir le contact avec les substances corporelles et avec les pouvoirs fécondants de ces êtres. Et c'est ce que montre bien une série de peintures, alors là, heureusement, elles sont là, toujours par... alors, c'est le même peintre qui avait peint ce que vous n'avez pas vu, c'est-à-dire le squelette du kangourou, et cette peinture-ci de Luma Luma, c'est Hirawala, qui est un peintre d'une assez grande notoriété chez les Kunwishku. C'est donc une série de peintures qui figurent ce personnage qu'on appelle Luma Luma, un être du rêve, qui a institué la cérémonie mardaïne et qui a créé les objets rituels utilisés dans ce rite en les extrayant de son corps. Ces objets, ce sont des musettes, des bâtons, des pierres, sont figurés à la place de ces organes, et on pourrait même dire qu'ils sont en fait ces véritables organes. C'est ce que montre très bien cette première peinture, qui figure les musettes et les bâtons ici, vous voyez, ça c'est les musettes et les bâtons dans la poitrine de l'Uma Luma et les pierres rondes à la place de ses testicules. En outre, les membres du personnage, vous voyez ici, sont finement hachurés, segmentés par des lignes de points qui sont des motifs caractéristiques des objets et des peintures corporelles de la cérémonie mardaïte. Ce sont donc des motifs dits rark. Deuxième peinture, l'Uma Luma est déjà démembré, c'est-à-dire que ses jambes et son pénis ont été découpés, ou coupés en tout cas, et ses os sont eux-mêmes devenus des objets sacrés, ils sont déjà figurés, vous voyez ici. La figuration de ces os, notamment ceux du bras et de l'avant-bras, donnant à voir la permanence dans le temps des objets sacrés issus de l'être du rêve, en concordance donc avec la convention figurative du squelette. Le troisième avatar de l'Uma Luma, là, les humains s'emparent des membres de l'Uma Luma. Ils sont là. Ses mains, ses pieds et ses parties génitales ont déjà été prises, elles ont disparu de la peinture. Mais on garde quand même la convention, par exemple, de la figuration et des os, de la colonne vertébrale, et puis toujours, bien sûr, les motifs rayés. Et finalement, dans la quatrième peinture, l'Uma Luma apparaît comme un corps décomposé, complètement démembré. Ses os gisant en désordre autour de lui, déjà décorés comme des objets sacrés. Et de fait, les objets sacrés utilisés dans la cérémonie du Mardaïn ressemblent tout à fait à cette représentation des os de l'Uma Luma et sont perçus comme leur reproduction. Donc c'est une excellente façon d'exprimer ces quatre peintures, la nature en quelque sorte partogénétique de l'engendrement totémique. Les existants humains et non-humains ne résultent pas d'une action de façonnement par des ancêtres démiurgiques, ils forment des parties qui furent séparées des êtres du rêve, mais qui continuent à entretenir avec le tout dont ces parties sont issues une relation de consubstantialité absolument essentielle. D'ailleurs, bien que l'Uma Luma soit dépeint sous une forme humaine, il s'agit plutôt d'un cadre visuel pour une conception finalement plus abstraite, dans la mesure où son corps englobe tous les objets rituels et tous les êtres du rêve, d'où les clans Kuwinchku actuels sont issus. En ce sens, il figure l'unité des différents groupes totémiques dans le langage très expressif de l'anatomie, tout comme les composantes des corps humains. Les différents groupes totémiques sont ontologiquement distincts, quoique fonctionnellement interdépendants. En définitive, on peut dire que toutes les images des Kuwinchku sont des figurations des êtres du rêve à l'origine des sites totémiques, figurations qui rendent ces êtres visibles et donc plus ou moins vivace, à tout le moins comme garant de l'identité totémique. Cette figuration, elle peut être directe ou indirecte. Elle est directe lorsque l'image actualise l'être du rêve, soit métonymiquement en figurant les motifs, les seuls motifs rares qu'il a transmis à un clan sur le corps des membres de ce clan, ou sur des écorces par des hachures. Soit est peut-être figuré de façon réaliste, voire hyper réaliste, au moyen de la figuration de cet être du rêve, sous la forme d'une silhouette où sont représentés ses motifs raques, ou bien son squelette, ou bien ses organes convertis en objets sacrés, parfois les trois ensembles. Ou bien la figuration de l'être du rêve, enfin, est indirecte lorsque c'est un animal quelconque, lorsque c'est de la viande, pour reprendre la terminologie Kunwishku, qui est représenté donc à la manière d'un gabarit de découpe du gibier avec ses subdivisions internes et ses organes. Mais cette figure évoque néanmoins un être du rêve particulier par au moins deux traits. D'abord parce que tout animal appartient à une classe totémique, nécessairement, et que sa figuration, même sous forme de gibier, même sous forme de viande, renvoie au prototype totémique dont il est l'incorporation. Ensuite, parce que les principes de découpe du gibier et d'entraide entre les parents ont été transmis par les êtres du rêve. Donc vous avez ici un schéma qui synthétise en quelque sorte les différentes formes de l'expression figurative d'un prototype des êtres du rêve, soit directement par une figuration pleinement iconique, hein, c'est-à-dire silhouette d'un être du rêve portant des motifs rares comme les brolgas, par exemple, soit la figuration du squelette, soit la figuration des organes comme objet sacré dans le cas de l'Uma Luma, soit en haut par une figuration métonymique, c'est-à-dire des motifs rares peints sur le corps des humains dans une cérémonie, des motifs rares peints sur une écorce, et enfin l'hypostase animale du prototype par la figuration d'un animal dont on ne représente que les organes internes. On voit ainsi comment la tradition iconographique des Kunwishku parvient à rendre visible de façon ostensible plusieurs traits caractéristiques de l'ontologie totémique qui sont pourtant finalement très abstraits. L'identité d'essence et de substance entre les humains et leurs totems, la permanence des propriétés qu'ils ont en commun, l'englobement dans le totem de ces propriétés et des objets qu'il a engendrés, et tout cela en jouant sur un registre figuratif fondé pour l'essentiel sur le langage de l'anatomie, c'est-à-dire de la structure, sur, finalement, le privilège accordé à la forme, au statisme et au systémique, sur le fond, sur le dynamisme, sur le narratif. Alors, les images de la Terre d'Arnhem sont réalistes, surtout les images Kunwishku, et même parfois d'une grande exactitude anatomique, à la différence de l'iconographie du désert central, ou comme on va le voir dans la prochaine leçon, ce ne sont pas les êtres du rêve qui sont figurés directement, mais les traces hautement stylisées qu'ils ont laissées dans l'environnement. Toutefois, les deux ne sont pas incompatibles, comme on l'a vu déjà avec le cas des Yolngu la dernière fois, mais aussi, d'une façon un peu différente, chez les Kunwishku, par l'intermédiaire d'un objet rituel qui a été décrit par Mountford il y a 50 ans déjà dans sa monographie sur l'art de la Terre d'Arnhem, et qui constitue une sorte de transformation permettant le passage de l'anatomique au territorial. J'espère que l'image... elle est toujours là, heureusement. On a donc là les deux faces d'une planchette de type Churinga, donc c'est un objet sacré. Sur une face de l'objet en haut, on a une figuration sur le mode rayon X. Alors, c'est une illustration tirée de Mountford, elle n'est pas de très bonne qualité. C'est une figuration d'un être du rêve, donc un poisson, Barramundi. Et sur l'autre, on a une figuration géométrique qui représente à la fois une stylisation très épurée des parties du corps du Barramundi, en même temps que les traits caractéristiques du relief qu'il a créé. Donc en passant du recto au verso du même objet, on ne bascule pas de la perspective d'un sujet dans celle d'un autre, comme c'est le cas dans la commutation des masques animiques, par exemple Yupik, dont j'ai parlé dans une leçon précédente. On passe du point de vue de la morphologie structurale, si l'on peut dire, à celui de la morphologie structurée, c'est-à-dire qu'on passe de l'anatomie qui porte en filigrane un paysage à accomplir au paysage accompli dans lequel on peut déchiffrer une anatomie. Je vais dire, je vais prendre encore deux minutes pour dire un dernier mot sur des images qui sont assez énigmatiques, mais qui peuvent être rattachées à ces images Kunwishku qu'on trouve à 800 km à l'ouest de la Terre d'Arnhem, dans la partie occidentale des Kimberleys, où on trouve donc des représentations d'êtres du rêve dans des grottes qui sont figurées sous la forme de silhouettes. Alors, les groupes tribaux de la région sont formés de locuteurs de trois langues, divisés en une trentaine de clans, et chaque clan est propriétaire d'un territoire et des sites totémiques qui s'y trouvent. Et chaque clan est plus particulièrement associé à un être du rêve, et le nom générique de ces êtres du rêve, c'est Wanjina. Et ces êtres du rêve sont dépeints dans des abris sous roche, où les membres du clan célèbrent des rites de multiplication. Alors, les Wanjina, je n'ai pas le temps de commenter les détails de l'image. Ce qui est plus important, c'est de comprendre ce qu'ils sont, exactement ce que sont ces figurations. Les Wanjina sont figurés sur les murs avec les plantes et avec les animaux qui appartiennent à la classe totémique engendrée par chacun d'entre eux. Et un aspect tout à fait fondamental des cérémonies consacrées aux Wanjina consiste à repasser de la peinture sur ces figures dans les abris sous roche afin d'assurer l'abondance des espèces représentées, chaque clan comptant sur les autres clans pour qu'ils assurent ce processus régénérant au profit des espèces dont ils n'ont pas la charge. Donc c'est une forme de rite de multiplication, classique en Australie, mais qui se fait principalement en venant stabiliser, en quelque sorte, l'image de ces Wanjina et des espèces qui sont issues d'eux. Donc repeindre les Wanjina, c'est littéralement copier les êtres du rêve, c'est-à-dire se placer vis-à-vis d'eux dans une relation de duplication et attester en somme de l'identité ontologique qui unit les humains à ces prototypes du monde. Les Wanjina, vous pouvez le voir, ont les yeux vides, ils sont dépourvus de bouche, car leur action ordonnatrice s'étant accomplie, ils n'ont plus besoin d'organes sensibles. Et par ailleurs, les peintures sous abri ne contiennent pas non plus de scènes narratives. Ce sont uniquement ces images de prototypes et de ce qu'ils ont engendré. Et ce caractère hiératique des Wanjina est recherché car, en fait, disent les groupes de la région, les aborigènes de la région, ce sont les Wanjina eux-mêmes qui ont réalisé ces peintures, parce qu'après avoir façonné le paysage, ils se sont retirés dans des grottes et se sont littéralement peints sur les parois. Autrement dit, ils se sont métamorphosés en peinture. Et repeindre ces peintures, c'est donc s'assurer que les prototypes continuent à exister, qu'ils continuent à assurer leurs fonctions. On pourrait faire un beau parallèle sur la grotte de Platon, dans lequel finalement les humains continuellement s'attacheraient à venir raffermir en quelque sorte les choses en soi en les repeignant sur les parois de cette grotte. Et repeindre ces peintures, c'est s'assurer que les prototypes continuent à exister. Ce n'est pas représenter, ce n'est pas donner à voir, c'est entretenir un modèle et un principe générateur dont la disparition signifierait la disparition de ce qu'il a engendré. Autrement dit, un Wanjina peint ne figure rien. Il est tout simplement l'être du rêve qui s'est projeté lui-même sur les parois d'un abri. Il est immobile pour l'éternité avec les modèles de plantes et avec les modèles d'animaux qu'il a engendrés. Donc la figuration ici, ce n'est pas une narration, ce n'est pas une révélation, c'est tout simplement un mode d'être, une modalité de l'être. Et en ce sens, on a une continuité avec ces représentations Kunwishku l'ouest de la terre d'Arnhem. Voilà, je vais m'arrêter là.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.